Laudetur Jesus Christus.
Des scènes de guérilla à Barcelone hier soir en Espagne. Les touristes invités à déserter le centre-ville de cette capitale de Catalogne. 60 personnes ont été blessées. Des violences en marge d'une manifestation monstre de 525 000 indépendantistes qui protestaient hier contre la condamnation de leurs dirigeants politiques. Au Liban, deuxième jour de mobilisation contre la corruption de la classe politique. Face à la colère des Libanais, le premier ministre Saad Hariri a donné 72 heures à sa fragile coalition pour soutenir ses réformes économiques. Synode sur l'Amazonie, une étape importante franchie hier avec la présentation des rapports faits en cercle mineur. Que nous disent les pères synodaux invités, experts de ce synode? C'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis enfin, en ce mois missionnaire extraordinaire, nous donnons la parole comme chaque samedi à un évangélisateur sur le départ. Le père Will Conker, à 30 ans, s'apprête à partir en mission Ad Vitam au Cambodge. Il nous expliquera comment est née sa vocation missionnaire.
Le journal Marie Duhamel.
Bonjour à tous. Démonstration de force des indépendantistes catalans en Espagne. La grève a été peu suivie, mais les manifestations d'hier ont rassemblé plus d'un demi-million de personnes à Barcelone. Ils ont exprimé leur colère après les condamnations par la justice de plusieurs de leurs dirigeants lundi dernier à des peines de prison, mais aussi leur frustration 2 ans après la tentative de sécession de la Catalogne. Leur manifestation monstre s'est déroulée dans le calme, du moins pendant quelques heures. Hier soir, à nouveau, de violents affrontements ont opposé les plus radicaux à la police. À Barcelone, le reportage de Luis Marsans.
Place à Urquinaona, en plein centre-ville, les agents anti-émeutes tirent avec leurs flashballs pour tenter de faire reculer les séparatistes. Les casseurs leur lancent des pierres, des barres de fer et tout ce qu'ils peuvent trouver sur leur passage. Issus des Black Blocs, les meneurs sont expérimentés, mais la grande majorité sont de très jeunes indépendantistes d'extrême gauche, en colère contre les condamnations, bien sûr, mais aussi frustrés de voir que l'indépendance ne vient pas. Victor a quitté la manifestation avant que cela dégénère. Il désapprouve les violences.
Je comprends le sentiment, mais je pense que c'est pas la façon de faire. Je comprends, je suis en colère aussi, je suis triste, mais je brûle pas des choses.
La facture des dégradations s'élève déjà à près de 2 millions d'euros et rien ne semble enrayer la spirale de la violence. Un peu plus tôt, pourtant, dans la journée, une marée humaine avait envahi les rues de Barcelone dans une ambiance pacifique. Parmi eux, Alex, la quarantaine.
C'est même plus un truc d'indépendance de la Catalogne ou pas, il n'y a plus de démocratie, on revient aux années de Franco. Je me sens triste, en colère. Depuis lundi, c'est vraiment une frustration ici en Catalogne.
Et à Madrid, le gouvernement socialiste tente de garder son calme et de ne pas prendre de décisions qui pourraient jeter de l'huile sur le feu, alors que la droite réclame une suspension de l'autonomie. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
Et en Catalogne, près de 500 personnes ont été blessées depuis le début de la semaine, 60 hier soir à Barcelone. Britanniques et Européens retiennent leur souffle ce samedi à Londres. Le Parlement est convoqué en session extraordinaire, appelé à se prononcer sur l'accord de Brexit négocié par le Premier ministre Boris Johnson et conclu in extremis cette semaine avec Bruxelles. On est en effet à 12 jours de la date prévue de sortie de l'Union Européenne. Reste à savoir si les députés britanniques l'approuveront et ce n'est pas dit. L'UE regrette, mais elle n'a pas d'autre choix. La Commission européenne annonce de prochaines représailles aux taxes punitives américaines. Celles-ci sont entrées en vigueur hier sur de nombreux produits européens, sur le parmesan italien, l'huile d'olive espagnole ou encore les vins français. Une dizaine de trains spéciaux, plusieurs centaines de bus sont en route pour Rome, la capitale italienne où Matteo Salvini, le chef de la Ligue, a donné rendez-vous aux sympathisants de son parti d'extrême droite après avoir provoqué la chute du gouvernement dont il était l'homme fort. Cet été, Matteo Salvini espère poser avec ce rassemblement romain l'acte fondateur, a-t-il dit, de sa reconquête du pouvoir. Au Vatican, une étape importante du synode sur l'Amazonie a été franchie hier après plusieurs jours de travail à huis clos. Les 12 cercles mineurs qui ont réuni autour d'une même langue des pères synodaux, des auditeurs, des invités ont rédigé leur rapport, des propositions qui serviront de base à la rédaction du document final du synode. Des propositions présentées hier en salle de presse du Saint-Siège. Un fil rouge unit les 12 rapports. La volonté de réconcilier l'Église avec l'Amazonie. Olivier Bonnel.
Tous les textes lus publiquement expriment l'espoir qu'un nouveau chemin synodal puisse se développer en Amazonie et que les acteurs du synode puissent repartir avec une ardente passion missionnaire propre à une véritable église en sortie. Plusieurs groupes ont rappelé que ce synode n'était pas seulement régional, mais avait bien une dimension universelle. Parmi les thèmes remontés lors des discussions, le renouvellement et renforcement de la vie consacrée ou le rôle à donner aux femmes, le synode nous invite à assurer la co-responsabilité, a résumé une religieuse colombienne. Autre proposition venue d'un groupe de langue italienne, la possibilité de créer un rite amazonien, fidèle aux traditions des peuples locaux. Il serait l'expression d'une évangélisation qui s'inculture toujours plus, selon Mgr Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. La question des viri probati ou de la possibilité d'un diaconat féminin semble mettre d'accord de nombreux pères synodaux. D'autres demandent plus de temps pour étudier ces propositions. Ces questions ne sont donc pas centrales. L'idée majeure est d'ouvrir de nouvelles voies pour rapprocher l'Église encore plus de cette réalité amazonienne. Écouter le cri de ces peuples, comment répondre au mieux pour être proche de nos communautés, a résumé ce vendredi l'évêque brésilien de Roraima, se faisant l'écho général de ces cercles mineurs. Un synode qui a déjà ouvert de nouveaux chemins vers une conversion pastorale et écologique.
Olivier Bonnel, vous retrouverez plus ample détail sur ces rapports des cercles mineurs sur notre site internet vaticannews.va. En Colombie, des communautés noires et indigènes de la municipalité de Boraya, au moins 2250 personnes se retrouvent ce matin confinées dans leur territoire au nord-ouest du pays, une zone stratégique pour l'exportation de la cocaïne où s'affrontent en ce moment même un gang de narcotrafiquants et la guérilla de l'ELN. Lutter contre le trafic de drogue, oui, mais comment? Au Mexique, le président Obrador est en difficulté après l'opération désastreuse de jeudi, dans la ville de Culiacán, le fief d'El Chapo. Beaucoup de civils ont été exposés à de grands risques, a reconnu le président. Jeudi, la ville a été transformée en effet en un champ de bataille lorsque la police a lancé l'assaut contre les hommes du célèbre baron de la drogue, parvenant à arrêter son fils. Aussitôt relâché, les forces de l'ordre n'avaient ni mandat d'arrêt, ni ordre de persécution. Au Liban, c'est la taxe de 18 centimes d'euros que le gouvernement voulait imposer sur chaque conversation WhatsApp qui a mis le feu aux poudres après deux jours de manifestations, rassemblement que la police a dispersé hier avec des tirs de gaz lacrymogène. Le premier ministre Saad Hariri a donné trois jours à son gouvernement pour soutenir ses réformes. À Beyrouth, les précisions de Chloé Doma.
Les manifestations se sont poursuivies jusqu'à tard dans la nuit à Beyrouth et dans d'autres villes du pays. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour hurler leur colère contre les élites politiques. Le mouvement a commencé jeudi soir après l'annonce d'une nouvelle taxe sur les utilisateurs de WhatsApp et autres applications mobiles pour téléphoner gratuitement. La mesure a été rapidement annulée, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au Liban, où plus d'un tiers de la population n'a pas les revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, les manifestants demandent désormais la démission du gouvernement qu'ils accusent de mauvaise gestion et de corruption. Hier soir, le Premier ministre Saad Hariri leur a répondu. Il demande 72 heures pour organiser des consultations et apporter une réponse convaincante. Cette déclaration n'a pas ému les foules. Au centre-ville de la capitale, place des Martyrs, le mouvement a continué de plus belle. Les manifestants, des jeunes pour la plupart, expriment leur colère par des chants et des slogans, tandis que quelques casseurs s'en prenaient à des vitrines. Beaucoup de Libanais assurent qu'ils resteront mobilisés dans les jours qui viennent. Chloé Doma à Beyrouth pour Radio Vatican.
Dans le nord-est syrien, deuxième jour de cessez-le-feu. Aujourd'hui, cessez-le-feu concédé par le président turc aux Américains, Recep Tayyip Erdogan, qui laisse encore trois jours aux forces kurdes pour dégager de la zone de sécurité qu'il souhaite imposer à sa frontière. Les Kurdes estiment que la trêve a été violée hier en raison de tirs d'obus et de bombardements dans plusieurs villages près de Ras El Ain. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que 14 civils y ont été tués. Au Pakistan, un homme de confession chiite a été condamné hier à 5 ans de prison pour blasphème en application d'une loi contre la cybercriminalité. C'est la première fois que cette législation en vigueur depuis 3 ans est appliquée pour réprimer le blasphème qui peut être puni de mort dans cette république islamique. Les précisions de notre correspondant Emmanuel Derville.
L'homme de confession chiite condamné vendredi avait posté des contenus jugés offensants sur Facebook envers le deuxième calife de l'islam, le calife Omar. Au Pakistan, les tensions entre chiites et sunnites sont courantes. Des groupes radicaux sunnites considèrent les chiites comme des apostats parce qu'ils contestent notamment la légitimité des califes qui ont succédé au prophète Mahomet. C'est dans ce contexte de tension sectaire que la condamnation à 5 ans de prison a été prononcée par un tribunal de Lahore dans l'est du pays. La loi contre la cybercriminalité qui a été appliquée dans cette affaire illustre la surveillance croissante des autorités sur les contenus publiés en ligne au nom de la lutte contre le terrorisme. En plus du blasphème, elle réprime les propos diffamatoires ou jugés violents, mais dans des termes très vagues. Les ONG avaient critiqué ce texte dès son entrée en vigueur parce qu'il restreint la liberté d'expression. Emmanuel Derville, New Delhi, pour Vatican News.
En Guinée, devant un tribunal de Conakry, le parquet a requis hier 5 ans de prison ferme contre les initiateurs des manifestations de la semaine dernière contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. À 81 ans, ce dernier est candidat à sa réélection en 2020, ce que ne permet pas en l'état la constitution guinéenne. Et puis enfin, en Côte d'Ivoire, un ancien président de l'Assemblée nationale, ex-chef de la rébellion ivoirienne dans les années 2000, le populaire Guillaume Soro se déclare candidat à la présidentielle de 2020. Il a officialisé sa candidature lors d'un entretien à la radio RFI et à la chaîne France 24. Nous poursuivons ce samedi notre série de témoignages sur les missions dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire et à la veille de la journée missionnaire mondiale célébrée ce dimanche. Et cette semaine, le père Will Conker, ce jeune franco-américain de 30 ans et prêtre du diocèse de Monaco et des missions étrangères de Paris, après plusieurs années d'études à Rome, il part cet automne en mission ad vitam au Cambodge, un pays où l'église amorce une délicate reconstruction après la destruction totale de ses institutions durant la période des Khmers Rouges. Le père Will Conker nous explique que son désir de devenir missionnaire s'est articulé autour d'une soif de Dieu et d'une soif de servir les plus petits, les plus éloignés, à la suite notamment de Mère Teresa.
Je pense que la soif, c'est le bon mot, pas seulement à cause du livre d'Amélie Nothomb, mais parce que quand j'étais à Calcutta, à côté de la croix, au-dessus de l'autel, il y avait cette phrase que Mère Teresa a fait écrire sur toutes les croix, dans toutes les églises des centres des missionnaires de la charité, « I thirst », j'ai soif. Cette soif m'a conquis et c'est cette soif que je veux aujourd'hui étancher en répondant à un appel missionnaire en Asie, un appel dont j'ai pris conscience de l'urgence quand j'étais là-bas, quand j'ai vu des gens naître et mourir sans jamais avoir personne pour leur dire combien Dieu les aimait. Je me suis dit que la faute n'était pas celle de Dieu, mais peut-être la mienne si je ne répondais pas à cet appel, prenant conscience donc de l'urgence d'annoncer au monde combien il est aimé.
Alors l'Asie est un continent très particulier. On a au Vietnam une église en reconstruction, mais florissante avec beaucoup de vocations. L'église catholique au Cambodge, elle, est encore très fragile et en reconstruction après avoir été liquidée, exterminée par les Khmers Rouges. Est-ce que ce désir de reconstruire une église martyre est une source de motivation particulière?
Oui, c'est extrêmement enthousiasmant. Aujourd'hui, on accueille de nombreux bénévoles, des volontaires dans le cadre du volontariat des missions étrangères qui viennent et qui vivent vraiment la joie d'une église qui naît ou qui renaît. Il y a un vrai travail pour enraciner l'église et faire naître un clergé local. Actuellement, au séminaire, on a seulement 2 jeunes Khmers. Je pense que c'est un des pays du monde qui a le moins de séminaristes nationaux. Et pourtant, c'est pas le désir qui manque. Ce qui manque, c'est des témoins pour appeler. Et donc il y a une urgence actuellement à aller au Cambodge et à appeler ces chrétiens, à vraiment risquer leur vie à la suite du Christ. Pour un jeune prêtre, c'est un défi extrêmement enthousiasmant, surtout de voir le travail qui a été fait. Je pense à Mgr Yves Ramous, évêque avant le génocide, évêque après le génocide, encore vivant, qui a été vraiment le témoin de cette renaissance. Je pense aux nombreux prêtres qui travaillent depuis les années 90 à la reconstruction de cette église. Et faire partie de leur équipe, c'est très enthousiasmant. J'espère que je ne suis pas le dernier à partir. J'espère qu'il y en aura d'autres, peut-être parmi vos auditeurs, qui entendront cette urgence et cet appel et qui se diront « pourquoi pas moi aussi devenir missionnaire ?»
Alors dans le paysage ecclésial français, les MEP font figure un peu d'exception puisque cette communauté continue à appeler de nombreux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui continuent à répondre à cet appel missionnaire, ce qui peut sembler paradoxal dans un pays où les vocations diocésaines sont assez rares. Qu'est-ce que ça signifie dans la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, cette soif missionnaire qui continue à s'exprimer alors que peut-être il y a 30 ans on pensait qu'elle allait définitivement s'éteindre?
Comme vous dites, c'est une vraie soif. Et c'est une renaissance. Depuis les années 90, avec le volontariat notamment, il y a aux missions étrangères un certain renouveau, mais qui est encore bien trop petit, je vous dis la vérité. On est tellement peu, on est une quinzaine de séminaristes, 2 ou 3 ordinations par année, c'est pas assez, il faudrait qu'on soit beaucoup plus, et je prie vraiment, j'insiste auprès du Seigneur pour qu'il envoie une abondance de missionnaires pour aller récolter ces champs qui promettent une moisson si abondante, comme disaient nos fondateurs. Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui nous attire à la mission en Asie? Je crois un appel. Je pense que tous les jours dans le monde, il y a plusieurs pages sur l'Asie qui nous parlent de leur croissance économique, démographique, mais personne pour leur parler de la croissance spirituelle. Et je pense que c'est cette urgence à laquelle on veut répondre. Alors effectivement, moi quitter la France, c'est une souffrance. Et je me réjouis de voir mon frère qui est rentré après moi au séminaire. Et du coup, dans ma famille, on est 2. Il y en a celui qui part et il y a celui qui reste. Mon frère qui est séminariste dans le diocèse de Toulon. et que je salue et que je suis très fier d'avoir, parce que c'est une consolation de voir que la France n'est pas abandonnée, qu'il faut prier pour la France, mais pas oublier aussi le reste du monde.
Interrogé par Cyprien Viette, le père Will Conker, prêtre des missions étrangères de Paris en partance pour le Cambodge, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité internationale et l'actualité de l'Église dont le monde revient tout à l'heure à 13h, heure de Rome. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page internet vaticannews.va. Excellente journée.